Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
On va simplifier. On est remis la soutasse.
Mais vous avez de jolis services.
Oui, ça vient de Toulouse. Autrefois, il y avait beaucoup de congrès, de communautés de Saint-Joseph, de notre congrégation sur Toulouse et le diocèse. Et alors, petit à petit, elles étaient même à l'archevêché, à l'Institut catholique, chez Colussa, et au séminaire à Toulouse. Et puis une à Luchon, puis celle-ci est venue plus tardivement. Alors, on est la seule communauté qui reste, mais qui est la plus tardive dans la fondation. Et alors, suite à ça, elles avaient été... Je les avais vus à l'Institut catholique, chez nos sœurs de l'Institut catholique. Quand elles sortent de l'Institut catholique, sont parties, elles ont porté à la communauté du séminaire. Quand la communauté du séminaire est partie, elles sont portées à nous. Voilà.
C'est l'histoire d'une transmission.
Voilà.
Ça fait partie d'un patrimoine.
Ça fait partie d'un patrimoine de Saint-Joseph local. Voilà, servez-vous, c'est du 4/4. De temps en temps, on va voir des personnes âgées, alors ça leur fait plaisir. Elles nous mettent les choses dans le sac.
Ces personnes âgées, on ne va pas les voir beaucoup. Hein.
Enfin, un petit peu quand même.
En ce moment, c'est plus ou moins difficile.
Il faut que la famille soit d'accord. Mais il y a des personnes qui sont vraiment seules. Et elles sont contentes d'avoir une visite.
Sinon, vous les appelez
En téléphone.
Vous téléphonez aussi.
Oui, au téléphone.
Nous refermons aujourd'hui notre série de reportages Saint-Joseph et les congrégations féminines. Cette semaine, nous sommes à Carbonne, avec sœur Marguerite Marie, sœur Marie-Luc et sœur Maria. Toutes trois appartiennent à l'Institut des sœurs de Saint-Joseph. Un institut né le 25 décembre 1993, né de l'union de plusieurs congrégations beaucoup plus anciennes et portant le nom de Saint-Joseph. Mais tout a commencé quelques siècles plus tôt du côté du Puy-en-Velay. Et c'est sœur Marguerite Marie qui nous le raconte.
Dans les années 1646-47, tout ça, un jésuite qui était de Carcassonne, un jeune jésuite, il donnait des missions dans les campagnes autour du Puy. Et il rencontrait des filles, des jeunes femmes qui voulaient, parce qu'il y avait beaucoup de misère à l'époque dans les campagnes, il y en a moins maintenant, même s'il y en a beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de misère. Et il rencontrait des filles qui voulaient donner toute leur vie à Dieu en se donnant concrètement, en rendant service aux gens. Et ce genre de vie religieuse n'existait pas. Alors, le père Médaille, il a projeté, son dessein, c'était de rassembler ces filles et de les aider à vivre leur vie chrétienne en étant proche des gens et en se mettant au service. En vivant les œuvres de miséricorde de l'époque. Enfin, elles étaient en contact avec les filles perdues dans les villes du Puy, par exemple, les orphelins, tout ça. Et il a parlé de son projet à l'évêque du coin, à l'évêque du Puy, qui s'appelait Monseigneur de Maupas, et qui se trouvait être, ça a été notre chance sans doute, parce qu'il y avait peut-être quelques pouvoirs, il se trouvait être l'aumônier, le confesseur, l'aumônier, je crois, de la reine Anne d'Autriche. Son projet, finalement, il a pris corps. Et alors, contre toute espérance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sœurs apostoliques de ce type, hein, les sœurs Saint-Vincent de Paul qui étaient nées avant, elles ne portaient pas le nom de religieuses parce qu'elles n'ont pas été reconnues comme religieuses.
Les sœurs de la charité.
Les filles de la charité. Les sœurs de la visitation qu'avait lancée François de Sales. Eh bien, elles ne sont pas devenues religieuses apostoliques parce que tout de suite, on les a enfermées dans le monastère. Et alors, le père Médaille, il a conçu ça et il en a parlé à l'évêque du coin. Et alors, l'évêque, contre ce qui était inconcevable à l'époque, l'évêque a reconnu ses sœurs comme des religieuses. Et en 1650, c'est vraiment dans les... Il nous a reconnues comme religieuses. Il les a reconnues, il y avait six filles, hein, qui étaient filles de la campagne. Et il y en avait une seule qui savait lire et écrire. Les autres, c'était des filles toutes simples, mais qui voulaient donner toute leur vie à Dieu et aux autres. Et il les a reconnues et il les a mis sous la protection de Saint-Joseph. Et il leur a confié tout de suite, alors une institution qui existait à l'époque, sont un genre de maison qui accueillait des orphelins, je pense. Mm-hmm. Voilà. Voilà, voilà la naissance. Mm-hmm. Et alors, c'est à partir de là que nous avons été sœurs de Saint-Joseph.
Voilà. Mais Saint-Joseph qui prend soin.
C'est ça qui prend soin, qui mais prend aussi soin, oui. Saint-Joseph, le silencieux, l'homme de l'ombre, tel que le décrit le pape François maintenant. Hein. Et alors, très vite, enfin, oui, le père Médaille, ce qu'il nous avait confié, c'était de rechercher la communion des hommes entre eux et avec Dieu. Et il parle souvent, chercher la communion dans toute l'Église. L'Église était divisée aussi, mais c'était au-delà de toute l'Église. C'était chercher la communion des hommes entre eux. Et très, très, très tôt, il y a eu ce souci d'amener les gens à rencontrer Dieu, hein, par la conversation. C'est ça, notre charisme, c'est ça. Hein, c'est de participer à l'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est un charisme de communion. Mais qu'on a à vivre, pas d'une manière spectaculaire, extraordinaire, dans la vie toute simple dans la vie toute simple, voilà, à la manière de Saint Joseph, dans la simplicité, l'humilité, la cordiale charité. Ça, c'est des trois noms qui reviennent très souvent.
Cordiale charité.
Dès la fondation, en 1650, de nombreuses communautés naissent, principalement dans le centre de la France, dans les villes et les campagnes, des communautés autonomes. Mais il existe entre elles des relations d'entre elles, matérielles et spirituelles. Dispersées au moment de la Révolution, les sœurs, dès le début du XIXe siècle, sont vite regroupées en congrégations dans les diocèses où elles sont implantées. À l'aube du XXe, il en existait plus d'une quinzaine. Avant 1993 et la fondation de l'Institut, Sœur Marguerite Marie, Sœur Marie-Luc et Sœur Maria appartenaient à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Rodez.
Toutes les trois, nous appartenons à la congrégation Saint-Joseph de Rodez. Et cette congrégation résultait de la fusion de 6 congrégations locales aveyronnaises. Cette fusion s'est faite, cette union s'est faite en définitivement en 1965. Bon, et nous avons vécu de 65 à 98, nous avons vécu comme sœurs de Saint-Joseph de Rodez. Et nous avons été fondées par des sœurs qui avaient rencontré les curés du coin à Estaing, à Clairvaux, ailleurs en Aveyron. Et ces sœurs ont été formées dans des communautés qui venaient de l'Ardèche ou d'ailleurs. Ou de Lyon. Alors c'est pour ça qu'on est nés les unes des autres. C'est une histoire de communication. Il y avait à ce moment-là 13 congrégations de Saint-Joseph en France. Et il y avait des rencontres qu'on appelait des rencontres fédérales où participaient des sœurs des 13 congrégations. Et en 93, il y a eu un grand regroupement qui s'est fait autour des sœurs de Saint-Joseph de l'Ardèche, dont il y a eu 4 congrégations de Saint-Joseph et 2 congrégations d'Ossézène qui ont formé l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Mais nous étions encore indépendantes, nous étions encore nombreuses à Rodez. On était, oui, plus de 300, 350. Et alors, en 93, dont les Sœurs Saint-Joseph, certaines Sœurs Saint-Joseph se sont regroupées et ont formé l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Et puis d'autres se sont regroupées à Lyon, autour des Sœurs Saint-Joseph de Lyon. Alors nous étions entre les deux, entre Lyon et les sœurs qui s'étaient retrouvées à l'Ardèche, et on cherchait quand même notre voie. Mais on a fait le choix, donc ça a été décidé dans un chapitre, le dernier chapitre de Sœurs de Saint-Joseph de Rodez, c'était en 95 à Seignac. Il a été décidé que nous allions demander de rejoindre un de ces regroupements Saint-Joseph qui était né autour de Lyon ou autour de l'Institut des Sœurs Saint-Joseph de l'Ardèche. Le conseil de l'époque a fait le choix de demander fusion à l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de l'Ardèche, où il y avait déjà 4 congrégations de Saint-Joseph anciennes et 2 congrégations d'Ossézène. Et c'est comme ça que très vite, vraiment on a été surprise parce que ça a été très vite, dès le mois de février 98, nous nous retrouvions intégrés dans l'Institut des Sœurs Saint-Joseph. Nous, fondus, oui, c'était la fusion de la congrégation de l'Union Saint-Joseph de Rodez avec l'Institut. Voilà. Et nous étions déjà avec Sœur Marie-Luc ici à Carbone. Carbone, c'était donc en février 98, c'était le jour où nous l'avons appris, c'était vraiment le mercredi des cendres de 98, je m'en souviens très bien parce que le souvenir est très précis.
Mais est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous ?
Ça n'a rien changé dans la mission de charisme. Ce qui a changé, c'est psychologiquement, il y a quand même une mort à vivre. Et puis, moi je l'ai vécu quand même comme une richesse, indépendamment des morts à vivre, des morts psychologiques. Hein. Bon, moi je l'ai vécu comme une richesse parce que il y a eu toute une refondation des Sœurs de Saint-Joseph autour de l'Institut, hein. Toute une réflexion qui s'est faite, et puis une réorganisation, et bon, des formations qui ont...
Oui. Moi aussi, après est arrivée ici une sœur de... Donc
depuis
mais ça ne m'a pas gênée du tout. Ça, oui. On était comme des sœurs, quoi.
Oui. Mais vous êtes
comme des sœurs.
Vous êtes des sœurs.
On est des sœurs.
Même si elles venaient d'ailleurs, moi ça m'a jamais.
Eh oui, oui. On a vécu l'expérience de cette nouveauté en communauté. Hein. Mm-hmm. On a été quatre pendant de 2004 à 2017. Ça s'est très bien passé. Cette sœur se trouve maintenant en Haute-Loire, à Monistrol, et elle téléphone assez souvent parce qu'elle reste vraiment attachée. Elle est partie pour une raison de santé.
Dans le sillage de toutes celles qui, depuis plus de trois siècles, ont eu le courage et l'audace de tout quitter pour se donner à Dieu et aux chers prochains, Sœur Marguerite Marie, Sœur Maria et Sœur Marie-Luc, engagées dans des métiers et services liés à l'éducation, aux carrières sanitaires et sociales, dans les milieux associatifs, on servit simplement là où le Seigneur les appelait dans l'ordinaire des jours.
On vit en petite communauté, mais les communautés sont vraiment rassemblées pour la mission. La mission est très importante, même si on fait des choses très différentes chacune. Mais c'est dans le même esprit, enfin, c'est ce même esprit de communion, être artisan de communion partout où on vit, dans, quelle que soit la profession, quelle que soit la tâche.
Oui, parce que vous êtes envoyé en mission en petite communauté,
voilà,
à 2, 3, 4, au sein de paroisses, au sein de...
Oui, il y a eu des sœurs qui ont vécu au Mirail pendant de nombreuses années, pendant plus de 20 ans, et bien elles étaient envoyées
là. C'était présence au
monde populaire, au monde des plus pauvres, hein. Et il y avait plusieurs communautés à Toulouse, à Béziers, ou même à Aveyron,
Bagatelle,
au Mirail, à Toulouse. Quand on était à côté d'une école, les sœurs, par exemple, elles ont fait la cuisine.
40 ans presque, je faisais la cuisine, surveillance aux enfants dans l'Aveyron, j'y restais 50 ans presque dans l'Aveyron.
50 ans de témoignage, oui. 50 ans.
J'étais bien contente. Parce que quand je suis venue ici, les enfants, ils m'ont manqué beaucoup. Des fois, je regardais passer là, mais c'est pas ça que je voulais.
D'où vous veniez ?
C'était de... Moi, oui. D'Italie. Je suis venue en 54.
Et ce choix de cette congrégation ?
Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que c'était trop loin de ma famille. Moi, je voulais rentrer chez Saint-Jean-Bosco, comme j'étais en Italie. Bon, il fallait aller à Marseille à ce moment-là. J'avais ma famille dans les Pyrénées. J'avais que papa, frère et soeur. J'ai dit à première que je trouverais. J'ai accepté d'y rester parce que j'ai dit qu'après tout le soir là-haut, là, c'est pour le bon Dieu. C'était pas l'endroit que je voulais, mais bon, tant pis.
Servir là où le
Seigneur. Servir là où
le
Seigneur
vous
voulait,
a appelé.
J'ai compris que c'était là. Oui.
C'est sa volonté d'abord.
Oui. Parce que ça a été un peu dur pour ça, parce que je ne connaissais pas un mot français.
C'est pas ce que vous vouliez, mais vous avez découvert autre chose.
Oui, bien sûr, j'ai découvert autre chose. Mais pour choisir ce que je voulais, mais tant pis, j'ai dit, c'est le même but, c'est dire, bon, c'est là que je suis restée, je me suis sentie très à l'aise. Le premier temps que j'étais à Sarasou, c'est le premier... Et après aussi, j'étais très heureuse. Bon, nous étions deux, trois jeunes, mais je ne regrette pas.
Vous avez rencontré des sœurs, vos sœurs
ici, hein, après, oui. Après, parce que j'étais 32 ans à Saint-Cylie-de-Brac, mm-hmm. À côté de l'Aïole.
C'est rude là-bas.
Oui.
C'est rude.
C'est pas l'hiver d'ici.
Les gens sont...
Oui, mais les gens sont très attachants, très gentils.
Ils sont attachants.
Très attachants, tous.
Attachants, oui.
Les Aveyronnais. Et Marie-Luc, elle a vécu aussi, mais elle faisait la cuisine, mais aussi elle faisait autre chose, elle faisait le catéchèse.
Ah oui, moi je suis native de Luchon, et j'ai toujours vécu avec des sœurs de Saint-Joseph. J'étais à l'école avec des sœurs de Saint-Joseph. Et j'avais quand même d'autres sœurs autour de moi, mais c'est Saint-Joseph que j'ai choisi, parce que c'était Saint-Joseph. Et bon, je suis partie en Aveyron, je suis rentrée à Marcillac, en Aveyron. Après le noviciat, tout ça, je suis partie en paroisse. Et dans paroisse, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du catéchisme et de la CE.
Et de la CE.
Bon, j'ai pas fait ça tout d'un coup, c'est en faisant des choses que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne. Alors je me suis inscrite à des sessions, tout ça, pour savoir faire le catéchisme. Et j'ai fait ça presque toute ma vie, quoi. Jusqu'à la retraite. Voilà.
À Marcillac, aujourd'hui encore, outre le collège Saint-Joseph, existe également la maison de retraite Saint-Joseph.
Dans un groupe de 80 ou 90 résidents, il y a une communauté d'une quinzaine de sœurs, sans doute. Oui. Jusqu'au bout, on vit avec les personnes, au milieu des autres. Et ce qui se passe en maison de retraite actuellement pour nos sœurs, c'est ce que nous avons toujours vécu, cette proximité à chacun, proximité à Dieu et à chacun. Mm-hmm. C'est ce qu'on sommes invités à vivre. Hein. Nous sommes des religions apostoliques, mais vivant proche de tout le monde, mais aussi en communauté le plus possible pour vivre ce partage en vérité ensuite avec les gens, et que ce partage ne soit pas simplement...
Que ça ne reste pas
au plan humain, simplement. Hein. Voilà. Que même si, quelquefois, on ne peut pas dépasser dans l'expression. Hein. Bon, on essaie d'être avec les gens tout simplement, de vivre la charité, disons, de les respecter, de porter attention à leur vie, tout ça. Et bon, ce n'est pas toujours qu'on peut parler de Dieu, de celui qui nous fait vivre. Ça arrive.
Mais parfois, c'est votre façon d'être aussi, oui, si on parle aussi.
Oui, par exemple, nous sommes entourés de voisins. Bon, nous parlons avec tout le monde. Et bon, les gens sont plus ou moins...
Ils
savent qui nous sommes. Mais personne ne vient à la messe. Mais enfin, bon, les voisines, pendant le confinement, notre plus proche voisine qui est arrivée plus tard, que nous ne connaissons pas très bien, nous connaissons un petit peu... Elle est arrivée le premier dimanche du confinement dans le jardin, là vous êtes passé, avec une assiette, un papier éteint dessus. Elle avait fait des crêpes et elle venait de les porter. Mm-hmm. Et elle nous a dit, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là.
Mm-hmm. Parce qu'elle est plus jeune que nous.
Et elle venait que d'arriver depuis un an. Et elle est très réservée. Et une autre qui travaille le jardin, là, et on se parle à travers la grille, alors elle nous appelle les copines.
Disponibilité, humilité, cordiale charité, accueil, autant d'attitudes qui rendent simple la vie et les relations entre les personnes. Une manière toute simple de vivre l'évangile au cœur de ce monde, en paroisse par exemple.
On est fait partie du SEM, Service évangélique des malades, depuis qu'on est là, depuis toujours. Et puis, dans la paroisse aussi, Marie-Luc et moi, nous sommes en lien avec des adultes qui demandent un sacrement, le baptême, la confirmation, la première communion. Mais tu feras partie d'une équipe quand même, l'accompagnateur, mais c'est ça. Oui, on essaie peu à peu de laisser les responsabilités... tout en prenant notre part, quand on peut, comme on peut. Moi, je suis aussi à la Croix-Rouge, depuis que je suis ici à Carbone, mais bon, j'ai fait ce choix parce que quand je suis venue ici à Carbone, j'avais pas grand-chose à faire, disons, je ne voyais pas bien comment j'allais me situer. Et pour moi, c'était important d'être présent en dehors de l'Église, de pouvoir être en lien aussi avec des gens, des périphéries, on ne disait pas le moi à ce moment-là, puisque je suis venue en fin 97,
C'est pas le mot qu'on employait, mais c'était ça que je voulais un peu. Et alors, la Croix-Rouge me permettait d'être présente aux autres bénévoles, hein, où ça se passe très simplement, et puis d'aller participer aux activités, la quête, que j'aime pas trop, enfin, à laquelle je participe aussi.
Mais c'est une nécessité, c'est nécessaire.
Hein. Mais aussi d'aller voir, par exemple, les personnes qui sont dans des centres de sclérose. Et depuis lors, j'allais tous les 15 jours passer 2 heures à Rieux dans un centre et je faisais des lettres pour tel ou tel et puis je parlais avec les uns et les autres comme ça.
Voilà. Et puis c'est une façon, c'est un moyen pour communiquer, pour entrer relation.
C'est ça. Mais bon, en étant respectueuse de la charte de la Croix-Rouge, c'est-à-dire je ne faisais pas de la réclame.
Vous portiez votre croix.
Tout le monde m'appelle Sœur Marie, raccourcisse un peu, mais je porte ma croix. Mais bon, c'est eux qui me parlent de Dieu. Moi, je ne leur parle pas de Dieu, mais eux me parlent.
Mais ce qui veut dire justement que voilà, un signe religieux, ça appelle.
Ah oui. Et elle n'est pas grande, notre croix, mais tout le monde la voit.
Moi, un jour, il y a un kiné qui m'a dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est cette croix ?» Je ne l'ai pas là. Elle me dit « C'est les Jeux Olympiques parce qu'il y a 3 cercles. »
Eh bien, il y a 3 cercles. Voilà, c'est la croix, l'union des sœurs de l'Institut des sœurs de Saint-Joseph. Il y a les 3 cercles.
Ah, d'accord.
C'est la Trinité. La plénitude de Dieu.
Ce sont 3 cercles qui s'enchevêtrent, qui sont imbriqués. Les 3 cercles sont imbriqués les uns dans les autres. Et ils sont au centre de la croix.
Puis les 2 branches, ça traduit bien la communion entre les hommes que nous devons chercher et la communion avec Dieu. Mais c'est un...
Oui, c'est une croix pas ordinaire quand même.
Oui, c'est une croix. Oui, alors c'est sûr que les Jeux Olympiques, ça vient souvent.
C'est ça, elle questionne, elle interroge.
Elle questionne.
Et justement,
elle
permet justement d'amorcer peut-être
une conversation.
Oui. Et oui, de l'importance quand même de garder un signe.
Oui,
discret,
un signe. Oui, on y tient ce signe. Mais bon, il est discret. Bon. Ouais. Mais dès le départ, justement. Dès le départ, les sœurs n'avaient pas de signe. Le père Médaille avait donné aux premières filles qui s'étaient rassemblées autour de lui, pas de costume, mais elles avaient le costume des veuves de l'époque. Pourquoi ? Parce que les veuves de l'époque avaient un costume très sobre, avec une cornette. Ouais. Les veuves étaient les seules femmes qui pouvaient, on l'a lu dans nos... qui pouvaient partir seules, seule, sans chaperon, aller voir les gens. Et les sœurs, elles allaient seules rendre visite à des personnes.
C'est vrai que c'était révolutionnaire à l'époque.
C'était un peu révolutionnaire. Et c'est certain que dans la ville du Puy, je crois, au départ, quand il y avait les 6 sœurs là, qui se sont installées, les responsables politiques, les responsables de la ville, ils s'inquiétaient. Ils disaient encore 6 femmes, des sœurs qu'il faudra nourrir, là. Alors, ils les ont retrouvées dans la première cuisine, leur première cuisine où elles se trouvaient rassemblées. Et il a trouvé ces femmes en train de faire de la dentelle au puits. Hein. Alors, ils ont été surpris de voir qu'elles travaillaient, donc qu'elles subvenaient à leurs besoins, donc ils n'avaient pas besoin de les nourrir.
Vie apostolique, vie de témoignage, vie dans le monde, mais vie de prière aussi, en petite communauté.
Oui. La prière en commun, c'est une force. Pour moi, personnellement, je dis, la prière, prier toute seule, la prière en communauté, c'est autre chose. C'est ma force, la force de chacune, en communauté.
Oui, on prie le matin, l'aude ensemble, on prie... Le soir, les vêpres, quand nous n'allons pas à la messe, mais on privilégie la messe. Hein? Et puis, on prie le chapelet quelquefois avec Lourdes, là. Si je vais voir une personne à ce moment-là, je vais voir la personne. Je dis le chapelet autrement. Hein? Il y a des priorités. Pour nous, la priorité, la prière communautaire est importante. On a pris l'appétit aussi de dire maintenant, depuis que Laudato aussi, je pense, de dire le Benedicite, qu'on disait dans les maisons. Quand on était plus jeune, dans les communautés, qu'on disait moins par la suite. Et on a repris l'habitude de dire les Benedicite et les grâces. Et puis nous participons beaucoup quand même à la prière avec nos frères chrétiens. Enfin, ça, c'est Moi, personnellement, ça me, je le trouve important. Nous sommes, nous vivons avec eux. Pour moi, c'est important de prier avec eux.
Engagé dans le monde pour, en toute rencontre, favoriser des relations fraternelles qui ouvrent à plus grand que soi, adieu. Telle est la belle mission des sœurs de Saint-Joseph.